Eh bien, permettez-moi tout d'abord de vous remercier infiniment de votre chaleureux accueil à la Fondation, qui est un haut lieu de création autour de Rilke. Donner cette conférence, dont le sujet est la guerre dans la vie et l'œuvre de Rilke, précisément dans le voisinage d'une exposition consacrée à Edmond Bill, est tout à fait pertinent. En effet, j'ai intitulé mon essai « L'épée ou la plume » et sur la couverture de l'Arbalète, le journal fondé par Edmond Bill, je vois une flèche et une plume. Voilà les signes de cette pertinence. Conjuguer la plume et l'épée sera au fond la question de cette conférence. Cet essai « L'épée ou la plume » évoque la période que Rilke traverse entre 1914 et 1919. Il relate les conséquences de la guerre sur son œuvre, ce que la guerre l'empêche d'écrire et ce qu'elle lui permet. Ce qu'elle lui permet aussi de mettre à jour afin d'être prêt à poursuivre les élégies interrompues. La guerre comme révélateur des conflits non résolus de l'enfance est la partie que j'ai prélevée de cet essai et choisie pour cette conférence. Comme vous le savez, l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie et son épouse, a eu lieu le 28 juin 1914. Et ce 12 juillet 1914, Rilke remercie sa mère de lui avoir envoyé une liasse d'articles relatant l'événement qui place, je cite, « sous une si mauvaise étoile le destin de l'héritier du trône d'Autriche ». Il fait chaud à Paris. La canicule l'incommode rue Campagne Première où il réside et l'orage qu'il voit venir après cette chaleur étouffante ne semble concerner que le climat. Pourtant, Rilke écrit le poème « Klage », « Plainte » en ce début de juillet 1914. De ce poème, toute allusion à la pression des événements politiques ne peut être écartée. Je vais vous lire un extrait d'abord en allemand de ce poème et ensuite dans sa traduction en français. « Wem willst du klagen, Herz ? Immer gemiedener ringt sich dein Weg durch die unbegreiflichen Menschen. Mehr noch vergebens vielleicht, da die Richtung behält, Richtung zur Zukunft behält, zu der Verlorenen. À qui veux-tu te plaindre, cœur, toujours plus évité ? Ton chemin se débat parmi les hommes incompréhensibles, plus vainement encore, peut-être, parce qu'ils gardent la direction du futur, de l'avenir perdu. Mais qu'est-ce que le cœur que cite Rilke dans ce poème? Le cœur situe le centre de la création pour Rilke, ce que vous avez nommé, Madame Duvillard, tout à l'heure, « Heimat ». C'est celui du poète, battant un rythme opiniâtre, mais sans certitude qu'il batte au diapason de celui des hommes parmi lesquels il vit. La solitude de Rilke semble, dans ce poème, irrémédiable, en une vision pessimiste d'un avenir perdu. Est-ce déjà l'Européen d'hier qui s'exprime, comme le dirait Stefan Zweig? En 1915, Rilke aura recours à Cézanne pour faire entendre que l'œuvre du peintre était venue trop tôt. Comment dès lors, dans cette perspective, ne pas interpréter ce poème comme l'expression de la fragilisation du poète dans l'atmosphère belliciste de l'Europe? En préambule, où en est la création poétique de Rilke quelques mois avant le déclenchement de la guerre? Il a déjà écrit à Duino, en 1912, les trois premières élégies et la vie de Marie. Nous reviendrons peut-être sur la proximité entre ces deux œuvres plus loin. En 1914, à trois mois d'intervalle, Rilke écrit également « Puppen », « Poupée » et le poème « Wendung », « Retournement » ou « Tournant ». Comme à chaque période cruciale de sa vie, Rilke se confie à Lou Andreas Salomé. Je cite. « Aujourd'hui, après ces mois de souffrance, je me retrouve orienté tout autrement, contraint cette fois à reconnaître qu'aucun être humain ne peut m'aider. Aucun. M'apporterait-il le cœur le plus justifié ?» Fin de citation. Par ces paroles désespérées, Rilke de Paris annonce le 8 juin 1914 à Lou qu'il vient de rompre avec Magda von Hartenberg, Benvenuta. Après un mois passé dans l'antichambre d'une exceptionnelle correspondance amoureuse où la passion, à distance, s'amplifie de lettre en lettre et que nous connaissons par ses lettres à une musicienne, Rilke partira à la rencontre de celle qu'il considère comme l'inconnue désirée et qu'il nommera bientôt Benvenuta la bienvenue. La relation sera de courte durée. À leur rencontre un mois plus tard, succédera la déception amoureuse, dont il avait d'ailleurs lui-même posé la prévision dès sa cinquième lettre, mentionnant, je cite, « cette petite trace de rétractation, ce mouvement qui, depuis mon enfance, s'empare de moi dans tout rapport humain. » La rupture est consommée début mai 14 à Venise et du 9 au 23 mai, Rilke séjourne seul à Assise. Encore ébranlé mais libéré, il poursuit dans sa lettre à Lou. « Cher Lou, depuis un mois, je suis de nouveau seul et j'espère ici pour la première fois de reprendre conscience. » Cette expérience vécue lui permet d'ouvrir son poème sur le monde. Et le 20 juin, une nouvelle lettre à Lou contient effectivement ce poème « Wendung ». Tournant, ou bien encore retournement sur soi, sursaut, tournant de la vie et de l'œuvre. Ce poème porte un épigraphe de Rudolf Kastner, l'ami de Rilke. Le chemin de l'intériorité à la grandeur passe par le sacrifice. Oui, mais comment ? Avait ajouté Rilke dans une lettre au même Kastner, confiant alors au philosophe que ce tournant n'était toujours pas pris. C'était en juin 1911. La vie et l'œuvre de Rilke avaient déjà cependant pris quelques tournants. Sous les influences de Lou Andreas Salomé, de Rodin notamment, les nouveaux poèmes étaient nés, les Cahiers de Malte et le début des Élégies de Duino, par leur fulgurance, montraient à Rilke que sa vocation de poète s'affirmait bien comme une mission. Cette posture, entre guillemets, de missionnaire et le processus d'une irrésistible ascension vers le chef-d'œuvre a toujours pour condition d'entretenir un permanent conflit avec la vie. La vie qui doit alors se dépouiller de ce qui peut entraver la marche vers l'œuvre. Rilke devra aussi combattre sa propre résistance au changement. Je cite « Mais qui peut se renouveler sans d'abord se détruire ? Or je passe ma vie à me dorloter de peur de la moindre casse », écrit-il encore à Lou Andreas Salomé. Citons les deux dernières strophes de ce poème « Wendung ». Denn des Anschauens Ziel ist eine Grenze. Über die geschauerte Welt will in der Liebe gedeihen. Werk des Gesichts ist getan. Tu nun, Herzwerk, an den Bilder in dir, jenen Gefangenen. Denn du überwältigstest sie. Aber nun kennst du sie nicht. Siehe, innerer Mann, dein inneres Mädchen, dieses Errungene aus tausend Naturen, dieses erst nur Errungene, nie noch geliebte Geschöpf. Car voici, il est au regard une limite, et le monde, assez regardé, veut dans l'amour s'accomplir. L'œuvre de la vue est faite, fais maintenant œuvre de cœur, sur les images, en toi, ces prisonnières. Car si tu les domines, tu ne les connais pas encore. Vois, homme intérieur, ta jeune fille intérieure, créature conquise sur mille natures, conquise seulement, jamais encore aimée. On le voit, l'expérience de la réalité vécue avec Magda von Hattingberg subit une métamorphose. Dans le poème, une transfiguration. La jeune fille est à présent intérieure. Dans un autre poème, écrit durant l'hiver 1913-1914, la bien-aimée était perdue d'avance. Les deux premiers vers en donnent le titre. « Du im Voraus verlorene Geliebte nimmer gekommen »« Toi, bien-aimée, perdue d'avance, jamais venue » ou « advenue » selon les traductions. Le poème exprime la traversée de l'apparence et cette inaccessibilité à l'étreinte réelle qui permet cependant, par sa sublimation, de frayer la voie au poème. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, écrivait Marcel Proust, oui, dans la conquête, mais sans la possession, aurait pu ajouter Rilke. Rappelons ici qu'un désir inassouvi chez Rilke assure une dynamique de sa création. Les amantes absolues chez Rilke sont Thérèse d'Avila, Mariana Alcoforado, Louise Labbé ou encore Gaspara Stampa, modèle féminin qu'il désespère de trouver chez l'homme, homme qu'il qualifiera plus tard d'amant retardataire. Rilke est à ce sujet très en avance sur son temps. Ce poème, Du im Voraus, toi amour perdu d'avance, expose les deux thèmes que nous retrouvons dans Wendung, l'image intérieure à délivrer, autrement dit le poème, et le tournant, qui est aussi ce moment de conscience éclairant une nouvelle étape de la création vers la conquête du chef-d'œuvre. Du im Voraus verlorene Geliebte, nimmer gekommen, nicht weiß ich, welche Töne dir lieb sind. Nicht mehr versucht ich, wenn das Kommende wogt, zu erkennen. Alle die großen Bilder in mir, in fernen, erfahrene Landschaft, Städte und Türme und Brücken und unvermutete Wendung der Wege und das Gewaltige jener von Göttern, einst durchwachsenen Länder, steigt zu Bedeutung in mir deine Entgehende an. Ô d'avance perdue, aimée, jamais venue, quel chant tu aimes, je ne sais. Te reconnaître dans la houle qui s'approche, j'y renonce. Toutes les grandes images en moi, paysages éprouvés au loin, tours, villes, ponts, brusque tournant d'un chemin, et ce qu'il y a de puissance dans ces pays jadis, des dieux imprégnés, tout monte en moi et tout, évasive, te signifie. Et une traduction de Philippe Jacotet. Notons qu'il y a une véritable difficulté à traduire le Unvermutete Wendung der Wege, non seulement pour en français la musicalité se perd, mais le sens également un petit peu. La relation entre les deux poèmes est manifeste entre de nombreux endroits. Et tournant semble bien représenter une sorte de conclusion à haut d'avance perdue, où ce qui était posé comme un constat d'échec se transforme en détermination. Le poète, en quelque sorte, a ramassé ses forces, a pris conscience qu'une voie s'ouvrait. Il s'agit d'établir, donc, un nouveau rapport entre la vie et l'œuvre. Wendung, tournant, écrit le 20 juin, représente bien un moment crucial dans la vie et l'œuvre du poète, lesquels vont, moins de 2 mois plus tard, être bouleversés par le déclenchement de la guerre. Car la guerre va arriver au moment même de la métamorphose et va produire un arrêt à ce pur élan créateur. Le retournement tourne coup en quelque sorte. Les deux poèmes annonçaient la poursuite des élégies et la guerre va y mettre un point d'arrêt. Rappelons une histoire que nous pourrions qualifier de voyance poétique. À la suite d'un orage, la poétesse suisse Regina Ullmann avait envoyé à Rilke une bougie noire pour en conjurer la puissance maléfique. Rilke lui répondit. Dans cette réponse du 2 juillet 1914, avec le poème « Dire orage, orage »« Sprechen, Gewitter, Gewitter », Rilke veut, semble-t-il, aussi conjurer la force de l'orage, joignant l'incantation au geste. Mais de quel orage s'agit-il dans cette communication entre deux poètes? Nous serions tentés d'y voir une transposition poétique des événements guerriers qui vont frapper l'Europe. Le tonnerre du 28 juin à Sarajevo précipite la crise. L'attente. Le 25 juillet, l'Autriche-Hongrie mobilise 8 corps d'armée et le 28 déclare la guerre à la Serbie. Sprechen, Gewitter, Gewitter, was willst du hier, wo der Nöte so viele sind und der Verhängnisse und der unbegreiflichen Wesen. Voyez comme le unbegreiflichen Wesen correspond au unbegreiflichen Menschen du poème Klage que nous avons évoqué tout à l'heure. En français, dire orage, orage, que viens-tu faire ici où il y a tant de détresse et tant de destin et tant d'êtres qu'on ne peut comprendre. Les réitérations de Gewitter, Gewitter en allemand, que l'on trouvera encore deux fois dans le poème, font tinter à nos oreilles les deux Mein Vater, Mein Vater du poème Erlkönig de Goethe, où le père, dans sa fuite, à cheval, n'entend pas les avertissements de son fils, que le roi des Aulnes enlèvera à la vie. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlkönig mit leise verspricht? Mon père, n'entends-tu pas ce que le doucement le roi des Aulnes me promet? La suite du poème de Rilke pourrait aisément se lire comme la vision des événements qui plongeront dans la tourmente les habitants de cette maison composite nommée Europe et dont l'attentat de Sarajevo du 28 juin précipite la crise. Mais le poème pourrait aussi révéler la situation psychique dans laquelle se trouve Rilke et dont témoigne sa correspondance avec Louis-Andreas Salomé à ce moment. La suite du poème nous dit « Que viens-tu faire au-dessus de cette maison, où nous ne sommes même pas à l'abri de notre propre vie, dans laquelle nous logeons, comme des fugitifs, en même temps que la fuite qui est entrée avec nous ?» Dans le poème de Goethe, l'enfant pressent sa mort et, à travers la lecture du poème de Rilke, le poète est investi d'une puissance visionnaire. L'enfant tente, mais en vain, de rendre son père conscient de la séduction menaçante du roi des Aulnes. Est-ce une vision de la guerre que nous trouvons ici, dans la suite du poème de Rilke, je cite « Et les enfants se sont éveillés et s'étonnent, et il y a dans l'air une colère que leur mère ne peut pas entièrement détourner. Elle presse les petits visages l'un après l'autre sur ses genoux, mais chaque visage comprend et ne peut plus être apaisé. Orage, orage, que viens-tu faire ici, où il y a déjà tout, toi qui viens en surcroît? Il y a la vie ici, et dans les interstices, il y a la mort. Das Leben ist hier, und in der Zwischenräumen ist der Tod. » Ce poème rejoint le sombre pressentiment de la princesse de Touré-Taxis qui relate dans ses souvenirs sur Rainer Maria Rilke. Je cite « À la fin de mai, j'eus à Duino la visite de l'archiduc François Ferdinand, venu pour chasser les pigeons de nos falaises avec mon fils. Charmant, comme toujours, Il me parla avec ennui de son prochain voyage en Bosnie. Quelques jours plus tôt, une sonate de Beethoven que je déchiffrais tant bien que mal avait suscité en moi, d'une façon inexplicable, une sorte de vision ou de rêve éveillé, étrange et terrible, et sur lequel j'écrivis à l'instant quelques mots presque involontaires, l'appelant avec un serrement de cœur incompréhensible « Il trionfo della morte ». Comme nous allons le voir, la voyance, même pour les poètes, ont des limites. Oui, la voyance a des limites. Nous sommes le 19 juillet 1914 et Rilke, qui avait projeté de se faire soigner à Munich auprès de son docteur, ne se doutait pas que, quittant Paris le 19 juillet 1914, la guerre se déclencherait le 1er août et qu'il ne reverrait plus la France avant 1920. J'ai quitté Paris sans me douter de rien. Pour 8 semaines, pensais-je. Ma vieille concierge pleurait. Était-elle plus clairvoyante que moi ? Fin de citation. Adepte de l'auto-analyse, du travail comme auto-traitement, Rilke souhaitait malgré tout, je cite, « montrer ce corps bourré d'incommodités à un médecin ». Voilà sans doute finalement la seule issue. Ou non pas à un psychanalyste qui remonte au péché originel, mais à un médecin capable de procéder du physique au mental. Si son médecin tenta bien quelque investigation des profondeurs par l'approche des œuvres de Rilke, celui-ci repoussera cette psychothérapie. Je cite, « Il cherchait toujours à m'amener sur le terrain où il a le plus de pouvoir. Seulement, tout essai de fouille, de défrichage et autres travaux analogues y restaient exclus. Quelle horreur ce serait de rendre ainsi son enfance en morceaux, surtout pour quelqu'un qui n'a pas à dissoudre en lui-même ce qu'il n'a pu maîtriser d'elle, mais dont la vocation propre est de le réduire en réalité inventée et sentie, en chose, en bête, quoi encore, en monstre s'il le faut. » Voilà qui justifie un peu ce que Freud disait à un artiste, que pour l'artiste, la psychanalyse n'était pas nécessaire. Les choses, les monstres, le mot est lâché, effectivement. Quels sont ces monstres qu'annonce Rilke? Du point de vue de l'œuvre, ce sont ces 5 chants, Die Fünf Gesänge, que Rilke écrit entre le 2 et le 4 août 1914, donc pratiquement au lendemain de la déclaration de la guerre. Et nous allons en tenter le déchiffrage. En effet, ces 5 chants, qui glorifient un dieu de la guerre, font écho tout simplement au discours belliciste de Guillaume II, lequel proclame « Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie mit den Vätern war. Nun, aber wollen wir sie drechen. » En avant avec Dieu, qui sera avec nous comme il l'a été avec nos aïeux. Maintenant, nous voulons les battre. Drechen, le verbe employé par Guillaume II, c'est battre dans le sens de battre le blé, c'est-à-dire séparer le bon grain de l'ivraie. Je m'arrête un petit peu ici pour vous dire qu'à l'époque de mes recherches, je lisais aussi, pour d'autres raisons, des raisons de commémoration de la Grande Guerre, je lisais d'autres récits de guerre, et notamment ceux de Ernst Jünger. Et j'ai effectué un travail de comparaison dans la langue originale des deux écrivains. Rilke et Jünger sont sans doute deux extrêmes dans l'engagement de la guerre, dans la guerre. Rilke est un poète confirmé, sera un soldat de l'arrière, enrôlé à 40 ans, passant 6 mois à Vienne aux archives militaires, et réfractaires au maquillage de héros. Vous savez qu'on demandait aux écrivains d'enjoliver les récits, les exploits guerriers. Et Jünger, engagé volontaire à 19 ans, soldat d'élite, blessé 14 fois, recevant la plus haute distinction militaire, auteur d'Orage d'acier, Stahlgewitter, au sujet duquel Gide écrira dans son journal qu'il est incontestablement le plus beau livre de guerre qu'il ait lu. Jünger, soldat du front, avait-il emporté dans son paquetage ces 5 chants de Rilke, écrits par un futur soldat de l'arrière, lesquels, ces 5 chants, affirment au chant 4. En glorifiant, car ce fut toujours une gloire d'être non point dans la prudence d'un seul souci, mais dans un seul esprit de risque, en un danger superbement senti, en sainte communauté. En campagne, la vie est à même hauteur chez tous les hommes innombrables et au centre de chacun d'eux, une mort faite prince cherche l'endroit le plus hardi. Dans ce poème, deux circonstances remplies de fièvre, Rilke remet en question ou actualise l'idéal d'une mort individuelle qui était au cœur du livre de la pauvreté et de la mort. Les expressions « tous les hommes innombrables »,« zahllosen Männer » et « au centre de chacun d'eux » se trouvent comme réconciliées. La mécanique de la mort de masse permettant à chacun de trouver la sienne propre, c'est-à-dire au centre. Mais rappelons-nous, le centre qui était celui de la création poétique du temps de Wendung, qui était celui de la création poétique, donc est à présent le centre d'une mort anoblie par la guerre. Voilà bien ce que l'on pourrait qualifier de régression poétique. Rilke et Jünger, ou l'improbable rencontre de deux extrêmes, cependant se rapprochent dans l'expression apocalyptique de la guerre. Leur vocabulaire est commun. Pour plus de clarté, nous donnons ici quelques extraits de textes en allemand et dans leur traduction. Je cite donc Jünger. Zuweilen erstrahlt an den Horizonten des Geistes ein neues Gestirn, das die Augen alle Rastlosen trifft, Verkündung und Sturmsignal einer Weltwende, wie einst den Königen aus dem Morgenlande. Dann ertrinken die Sterne ringsum in feuriger Glut, Götzenbilder splittern zu irdenen Scherben und wieder einmal schmilzt alle geprägte Form in tausend Hochöfen, um zu neuen Werten gegossen zu werden. Parfois se lève à l'horizon de l'esprit un nouvel astre de clarté qui frappe les yeux de tous ceux qui ne trouvent pas le sommeil, tocsin d'une annonciation, signal d'une révolution, comme celle de jadis pour les rois mages venus d'Orient. Et les étoiles alentour se noient en un brasier. Les statues des faux dieux éclatent comme tessons d'argile. Et de nouveau, toutes formes forgées se font en mille fourneaux ardents pour être refondues en des valeurs nouvelles. Voilà ce qu'écrit Ernst Jünger. Et ce que Rilke écrit tout à fait en écho avec ce vocabulaire. Pour la première fois, je te vois qui te lèves, incroyable et notoire et si lointain dieu de la guerre, enfin un dieu, puisque souvent nous ne saisissons plus le pacifique dieu, c'est celui des batailles qui soudain nous saisit. Zum ersten Mal sehe ich dich aufstehen, hören gesagt, fernster, unglaublicher Kriegsgott, endlich ein Gott, da wir den Friedlichen oft nicht mehr ergriffen, ergreift uns plötzlich der Schlachtgott. Nous pourrions multiplier les exemples montrant que Rilke, dans les cinq chants, glorifie la guerre tout autant que Junger, et qu'ils utilisent une mythologie identique, un vocabulaire extrêmement proche. Après avoir écrit ces cinq chants, tel Raskolnikov après son crime, Rilke recule d'effroi. Et très vite, il va se reprendre. Le poète n'est-il pas, je cite, « l'amant des souffrances et l'amant du bonheur ». Cependant, si les poètes créent, soumettant la réalité à son symbolisme, le symbolisme des cinq chants accroît sa perplexité. Je cite « mon esprit a suivi le grand courant général », écrit-il à Anna von Münchhausen, mais il poursuit. Puis j'ai fait un retour sur moi-même, sur mon cœur ancien, celui d'avant, que je ne puis renier. Maintenant, après ce détour isolé, j'ai grand-peine à retrouver une position juste, et, si possible, en quelque manière féconde. Fin de citation. Si donc, dans les premiers jours, Rilke a suivi le grand courant général en écrivant ses cinq chants, bien que souffrant, ne souhaite pas se ménager et confie à sa correspondante qu'il songe aussi à se rendre, je cite, « tant soit peu utile, remettant à plus tard le soin de se reposer et de se fortifier. » Jusqu'à ce que nous ayons franchi Caen, la terrible montagne, dans cet avenir qui échappe au regard comme à l'imagination. Pour élucider cette sortie incongrue des cinq chants qui lui ont échappé, dont il aperçoit quelque sorte l'horreur, il devra donc faire un retour sur lui-même pour savoir mais d'où proviennent ces monstres. Supprimer la cause sera peut-être se protéger contre une réitération. Il le fera avec deux œuvres que nous mettrons en parallèle. Le poème à sa mère, « Ah, douleur, ma mère me détruit », et la quatrième élégie de Duineau, qu'il écrira en 1915 et qui s'adresse au père. En attendant, faisons un retour en arrière, car ces cinq chants font écho, mais font mentir cette nouvelle, « Feder und Schwert », qu'il avait écrit en 1893, laquelle s'origine dans le très populaire « Leier und Schwert », « La lyre et l'épée », titre du recueil de Theodor Körner, poète et militaire prussien devenu une grande figure populaire, patriotique, paru en 1814 après sa mort. Car cette nouvelle contient la problématique que la guerre repose, et cette problématique, Rilke va devoir la résoudre. La nouvelle de Rilke est certes un peu naïve, mais retient notre intérêt. Elle met en présence, en temps de guerre, deux objets dans une pièce, une épée et une plume pour écrire. Et les deux objets se mettent à discuter. Une certaine adversité anime leurs propos. Une rivalité entre la scintillante épée promise à la gloire des champs de bataille et la modeste plume destinée à tracer les signes d'un écrivain pauvre. Mais, toute modeste qu'elle soit, la plume parie qu'elle peut battre l'épée. Parie tenue, répond l'épée. Un chevalier en armure entre et se saisit de l'épée qui jubile, croyant partir pour la bataille. Mais tout à coup, un second chevalier entre à son tour, prend la plume avec laquelle il écrit « La paix est signée ». L'épée est donc vaincue et reléguée dans un coin, elle ne dira plus un mot. Nous y voyons la métaphore d'une rivalité entre une carrière militaire avortée et celle d'un poète qui est encore mal assuré à cette époque. 1893. Cette nouvelle pose en regard des cinq champs bellicistes la question. La plume l'avait-elle vraiment emportée sur l'épée? Telle est la question. Autrement dit, de manière extrêmement simplifiée, Rilke pourrait se demander: je viens avec mes cinq chants de glorifier la guerre, de la sacraliser, et en 1893, j'avais fait gagner la plume contre l'épée. Me suis-je vraiment débarrassé des influences parentales? Ma poésie est-elle vraiment libérée? Pour le dire de manière presque simpliste, ma poésie est-elle débarrassée du lyrisme que nous mettrions du côté de l'influence maternelle? Je vous rappelle que la mère de Rilke lui a quand même mis la plume dans les doigts, si j'ose dire. Et des thèmes épiques que nous mettrions du côté du père. Père qui avait une carrière militaire ratée et qui destinait malgré tout son fils à cette carrière-là. La plume ou l'épée, l'échec d'une carrière militaire acceptée pleinement ou à regret, telle est la question. Rejet ou regret? Même si le jeune Rilke, fréquentant deux académies militaires, est attiré dans un premier temps par le métier de soldat, il est aussi conscient et meurtri d'en être physiquement incapable. Il y a de nombreux témoignages à ce sujet. Ni sa sensibilité, se combinant avec une santé précaire, ni l'austérité de ses établissements ne pouvaient lui permettre d'épanouir ses aspirations, qui finalement le poussaient à vouloir satisfaire aux désirs parentaux, et donc de concilier la plume et l'épée. Je cite « Mon père avait dû faire appel à toute sa grande affection à mon égard pour admettre que le métier d'officier pût n'être pas le plus indiqué pour moi. » C'est ce qu'il confie à Hermann Pongs en 1924. Donc si la voie de la poésie pour laquelle il est précocement doué l'emporte, c'est sur la base d'un regret de ne pouvoir allier les deux voies. Car à la mi-mai 1892, s'il a quitté une école de commerce, René Rilke rêve encore d'une carrière d'officier. Mais dans le courant de l'été, son intention de devenir poète s'affermit, et c'est par conséquent à l'un de ses anciens instructeurs de l'école militaire de Saint-Pölten, le major général von Sedlakowitz, qu'il le signifie fin décembre 1892, non sans y ajouter déjà une allusion habile à Lyre und Schwert, la lyre et l'épée. Il lui dit: de plus, mon ami, la poésie ne se repose pas tout à fait. Les cordes de ma lyre ne rouillent pas. La main active réveille en elle l'harmonie mélodieuse qui sonne plus véloce que jamais. L'aspect que nous qualifierions de bipolaire de l'imaginaire de l'enfant, par lequel se manifestait jadis le désir de réunir le couple désaccordé de ses parents, se ravive alors au son des cinq chants. Le désir de réunir ses parents désaccordés, je fais référence au premier poème de Rilke à 9 ans, qui exprime le désir que ses parents, en pleine crise conjugale, se réconcilient. La forme poétique et les allusions guerrières qu'elle contient, cependant bien entendu communes à l'esprit des garçons de son âge, témoignent aussi d'une volonté de satisfaire les deux ascendants. Il est signé René, Maria, César, Rilke, et invoque le cri d'Hannibal, deux figures guerrières majeures. Ce poème s'intitule « Pour le jour de vos épousailles à mes parents ». le bonheur soit avec vous partout, c'est le cri cannibale a pour vous. Le choix que René Rilke fait de César affiche la volonté d'une emprise sur soi-même qui se dote d'un accent inhérent de virilité, au même titre que son intérêt pour Napoléon témoigne d'un attrait pour le chef. En outre, si René Rilke n'entre à l'école militaire de Saint-Pölten qu'en septembre 1886, alors que le premier poème est de 1884, le choix d'accoler César à son nom pour se donner un nom de plume est aussi déterminé par l'attirance de l'enfant pour son père et préfigure en quelque sorte son entrée à Saint-Pölten. Nous relèverons une permanence du thème que l'on pourrait nommer, qualifié d'héroïque ou épique, tout au long de l'œuvre, jusqu'en, pourrait dire, 1908, avec la dernière lettre au jeune poète Capus, que je citerai tout à l'heure. Pour témoigner de cette permanence, je vous citerai quelques œuvres, notamment l'histoire de la guerre de 30 ans, que Rilke écrit en 1890, la dernière année à Saint-Pölten. Il a 15 ans. Cette histoire de la guerre de 30 ans conjuguait son attirance pour la geste guerrière et son lyrisme poétique naissant, refuge ou sublimation de son inaptitude à l'exercice sur le terrain. Il y avait 81 feuilles du manuscrit, seulement 2 des 11 textes et un avant-propos témoignent d'une certaine exaltation, et ces feuilles ont été publiées, dont nous donnons un extrait. Laissons se dérouler sous nos yeux l'horrible tableau. Apprenons à connaître le pays et le peuple. Saluons les grands hommes de cette grande époque, Wallenstein, Tilly et quel que soit leur nom. Apprenons à les connaître tous par leur éclat et leur vie intérieure, les princes et le peuple de la guerre de 30 ans. Un autre texte écrit à Linz en 1892 est ce poème intitulé « Réponse à l'appel bas les armes, Antwort auf den Ruf die Waffen nieder » qui témoigne plus d'une opinion que d'une envolée lyrique adolescente. Ce poème réagit contre le pacifisme de l'ouvrage portant ce même titre, Die Waffen nieder, est paru en 1889, dont l'auteur est Bertha von Suttner, première femme à obtenir le prix Nobel en 1905. Il y a également, pour témoigner de cette permanence du thème héroïque militaire dans l'œuvre de Rilke, Die Turnstunde, l'heure de gymnastique, plus tardive, datée du 5 novembre 1899. Laquelle, l'heure de gymnastique, ne sera pas reniée par Rilke plus tard. L'heure de gymnastique, die Turnstunde, est ce qui reste du projet de son roman militaire. Nous en trouvons l'ébauche dans le journal de Schmargendorf, qui porte en préambule. Je cite. Étrange, le roman militaire est devenu soudain si urgent que j'ai pensé devoir l'entreprendre, sinon tout de suite, c'est-à-dire cette nuit, du moins aujourd'hui, au plus tard. Un an plus tard, à la fin de l'été de cette année 1900, lorsqu'il séjourne près de Brême, dans la colonie d'artistes de Worpswede, il écrit encore le poème « Charles XII chevauche en terre d'Ukraine ». C'est un jeune roi, roi de Suède, qui était un roi guerrier, et dont la défaite a Poltava contre Pierre le Grand de Russie fit perdre à la Suède son rang de grande puissance européenne. Je n'insiste pas sur ce texte pour passer à celui qui est nettement plus connu et qui est le chant de l'amour et de la mort du cornette Christoph Rilke. Chant, ballade, à la manière d'une ballade effectivement épique, qui sera publié en 1904 dans sa première version. Et il aura, sans que Rilke puisse le prévoir, un immense succès populaire pendant les années de guerre. Mis en musique, le cornet aura même pris le risque de devenir aviateur au grand désespoir de Rilke. Ainsi, lisons-nous au sujet du cornet dans ce quatrain écrit en Suisse pendant l'été 1919, lettre pour une inconnue. La guerre ne m'inspirait pas quand j'écrivais ceci en une nuit. À peine le destin, non, mais la jeunesse, l'élan, l'assaut, le pur instinct et le déclin qui s'embrasent et se nient. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'un pur élan, un pur retour de l'élan de jeunesse, a-t-il provoqué l'écriture de ces cinq chants bellicistes? Autre trace en 1908, que j'évoquais tout à l'heure, qui ne repousse pas la carrière militaire, c'est la dernière lettre au jeune poète Capus que nous avons évoqué. Il écrit, je cite, « Oui, je me réjouis de vous savoir dans ce métier stable, avec ce grade, cet uniforme, ce service, toute chose tangible et bien délimitée. C'est un emploi vigilant qui non seulement ne contrarie pas la personnalité, mais la fortifie. » Est-il besoin de rappeler que le jeune Capus est aussi aspirant à devenir militaire dans la même académie que Rilke a fréquenté? Rilke s'empressera d'ajouter qu'ainsi on est plus proche de l'art que dans ses métiers dits artistiques, qui, je cite toujours, tout en singeant l'art, le nie et l'offense. Il en va ainsi du journalisme, des trois quarts de ce que l'on appelle ou voudrait appeler la littérature. En un mot, je me réjouis que vous ayez évité de tels chemins et soyez solitaire et courageux dans la dure réalité. Alors, n'est-ce pas de ce cumul de mandats, de la plume poétique et de l'épée dont Rilke rêvait pour lui-même, lorsqu'il se tournait notamment vers Detlev von Lilienkron, lui-même poète et militaire? Ainsi, il existe un attrait incontestable de Rilke pour la chose militaire auquel on pourrait ne pas s'attendre chez lui. C'est ce qui apparaît dans l'essai « L'épée ou la plume » d'une manière beaucoup plus détaillée. Bon, bien entendu, mon étude ne simplifie pas la question d'une survivance continue, explicite, directe du thème épique dans l'œuvre. Les variations font partie de l'œuvre, et l'œuvre ne forme pas un chapelet de réussite. Les cinq chants font partie de l'œuvre, certes, même s'ils représentent une sorte de régression stylistique par rapport aux premières élégies de 1912. De même, si je voulais rechercher les origines d'un certain aspect du lyrisme dans l'œuvre de Rilke, je me mettrais à chercher les particularités du côté de l'influence maternelle. Je m'interrogerais sur le voisinage entre les trois premières élégies et la vie de Marie qui arrive en même temps, pratiquement. Et la vie de Marie pourrait être vue comme une régression stylistique par rapport à ses élégies. Ce qui m'a attiré dans cet essai, dont je vous lire une partie, c'est ce que la guerre a pu révéler chez Rilke. Voilà, fermons la parenthèse. Mis en doute, donc, fragilisé dans sa capacité de créer, en 1914, face au dieu masculin qui se déchaîne et qui a fait entendre son écho en lui par ses cinq chants, Rilke ressent l'urgent besoin d'aller aux origines, de réaffirmer le choix qu'il fit dès l'adolescence d'être ce pur poète et d'en trouver les traces véritables. Après cette régression des cinq chants, ne devait-il pas dénouer encore les liens qui, dans l'enfance, avaient tenté d'entraver sa vraie voix, le lyrisme issu du maternel? Ne se défera-t-il pas d'un catholicisme d'ailleurs du même héritage? Ne devait-il pas clarifier aussi l'incompréhension paternelle et cette carrière militaire impossible ou avortée Pour en finir donc avec le jugement parental, jaillissent à un mois et quelques jours d'intervalle deux textes qui pourraient sonner comme un règlement de compte vis-à-vis de ces deux parents. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure « aller aux origines ». Lorsqu'en 1904, Rilke s'interroge et interroge Lou Andreas Salomé sur les blocages de sa création, contre lesquels, je cite, « je rêve d'un vrai médecin à qui je puisse confier toutes mes angoisses ». La mère est nettement désignée comme la cause de ce, je cite, « tarissement » qui le rend comme un déchet qui ne peut plus participer à rien. Il poursuit, « même si c'est de l'hystérie, ce n'est pas moins quelque chose contre quoi ma volonté est aussi impuissante que contre une blessure qui ne se referme pas. » Dans cette même lettre à Lou Andreas Salomé, outre le surmenage dû au début des Cahiers de Malte et au climat romain, Rilke est toujours sensible au climat, toujours un peu souffrant, Rilke désigne la deuxième cause de son incapacité à vivre et créer ainsi. Je cite, j'ai ressenti la venue imminente de ma mère en plein travail comme un terme à celui-ci, d'où une hâte, une précipitation qui ne réussit qu'à briser son élan. Eh bien, 11 ans plus tard, le 14 octobre 1915, en pleine guerre et en pleine crise de création, Rilke écrit le poème « Ach, wehe, meine Mutter reißt mich ein ». Ah, douleur, ma mère me détruit. Je cite quelques vers du poème. Ah, douleur, ma mère me détruit. J'ai posé pierre sur pierre pour m'édifier, et déjà j'étais comme une petite maison autour de laquelle le jour se déplace, immense, seul de surcroît. Et voilà que vient ma mère. Elle vient et me détruit. Elle me détruit en venant me regarder. Elle ne voit pas que quelqu'un est en train de bâtir. Elle vient à moi en traversant le mur de pierre. Ah, douleur, ma mère me détruit. Fin de citation. Le mur de pierre. Elle vient à moi en traversant le mur de pierre. Rappelons-nous de cette expression « mur de pierre ». Dans le premier vers, « Ach, wehe, meine Mutter reißt mich ein », reißen, donc le verbe employé, veut dire vraiment arracher, déchirer. Ein reißen, c'est démolir. Ein Loch reißen, c'est faire un trou. Il s'agit là d'une expression très violente qui revient 4 fois dans ce court poème de 16 vers. Der Ries, issu de reißen, revêt le sens de crevasse, de fente, et cette blessure qui ne se referme pas fait alors implicitement référence à la fente maternelle originelle, cherchant à capter l'enfant qui en est sorti et qui ne peut se refermer qu'au prix d'un arrachement radical auquel Rilke aspire. Il s'agit bien ici pour lui d'une nouvelle tentative de détachement de sa génitrix traversant le mur de pierre. Génitrix, c'est le titre d'un roman de Mauriac. À ce sujet, ce roman de Mauriac, contant la tardive révolte d'un fils envers sa mère, qui a détruit son bonheur avec sa femme, l'intéressera au plus haut point. Paru en 1923, il le lira l'année suivante, et le recommandera notamment à Yvonne von Wattenwyl. Je cite, « Lisez Génitrix, œuvre austère et même terne, mais de quelle conscience, de quelle précision d'âme ?» Fin de citation. Le début de ce roman peut effectivement attirer Rilke. Il débute par les douleurs d'enfantement de Mathilde, l'épouse d'un fils unique couvé par sa mère. Mathilde mourra bientôt des suites de sa fausse couche. Je cite un passage du roman. « Ça n'aurait pas même été un garçon », dira la mère à son fils au sortir de la chambre mortuaire. Domination maternelle, attente déçue d'un enfant qui n'aurait pas été le bon, de voir inaccomplis tous ces ingrédients romanesques ne sont pas sans nous rappeler que Fia Rilke, Sophie Rilke, sa mère, espérait une fille et qu'elle couvra ce garçon, René Rilke, né prématurément, lequel souffrira toute sa vie de cette fragilité accentuée. Avec plus de 1100 lettres échangées, Rilke et sa mère furent malgré tout à l'image des personnages du roman de Mauriac, je cite, « la mère et le fils accrochés flanc à flanc comme de vieilles frégates ». Dans le roman de Mauriac, après le mariage, je cite, « il n'avait pas fallu 2 mois pour que le fils bien-aimé revînt dormir dans son petit lit de collégien tout contre la chambre maternelle ». Fin de citation. Dans le poème de Rilke, la mère vient traversant le mur de pierre, et dans le roman de Mauriac, c'est cette mère qui écoute, je cite, « derrière la cloison, le ronflement du bien-aimé. Devenue veuve, entre elle et les périls de l'ombre, s'était interposé derrière la cloison le sommeil rauque de son chéri. » Fin de citation du roman de Mauriac. Ajoutons encore qu'en 1904, dans une lettre à Lou Andreas Salomé, Rilke décrit ainsi son drame maternel. Je cite, « et dire que je suis son enfant et que dans ce mur délavé qui ne fait partie de rien, une porte dérobée à peine visible a permis mon entrée dans ce monde, à supposer que cette entrée puisse vraiment ouvrir sur le monde. » Ainsi se perpétue le lien entre Fia et René, séparés par cette mince cloison ou ce mur de pierre dont René ne peut s'empêcher la traversée mentale. Ce poème, donc « Ah, douleur, ma mère me détruit », fut écrit à la suite d'une visite de Fia à Munich en 1915. Ils ne se reverront plus. Je cite, « c'était là un des faits malentendus qui pèsent parfois sur toute une vie », dira Lou Albert Lazar, la compagne de Rilke de ses années de guerre. Elle met aujourd'hui dans sa longévité satisfaite, parfaitement étrangère, écrivait déjà Rilke, à Lou Andreas Salomé en 1912, en ajoutant aussi que tenter même d'admirer ce personnage inélucidé, l'allemand dit ganz unaufgeklärte Erscheinung, ne fait qu'aggraver son angoisse. Lou Andreas Salomé rapporte ainsi dans Ma vie cette douleur du lien maternel de Rilke. Je cite, j'ai souhaité dès mon enfance m'éloigner d'elle, et je crains d'avoir encore quelque part en moi des mouvements qui sont l'autre moitié de ces gestes rabougris. Mais, fin de citation, mais ô ambiguïté rilkéenne, les propos sur le jeune poète souligne aussi cette indéfectible permanence, je cite. Ô mère des poètes, ces jours préférés des dieux, c'est dans votre sein que l'inouï sans doute s'est concerté. Avez-vous entendu des voix dans les profondeurs de votre conception, ou bien les dieux se sont-ils simplement accordés entre eux par des signes ? René fut bien, en quelque sorte, la poupée de Fia, et c'est à une mère de substitution, la princesse de Touritaxis, qu'en mars 1913, Rilke déclarera qu'il n'aimait pas sa mère. Mais je est un autre, et si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute, dira Rimbaud. L'écriture des 5 chants, en écho à la situation de guerre, est aussi le produit de celui qui se reproche en 1903 d'être trop perméable aux sollicitations du monde extérieur. Il écrit à Lou Andreas Salomé le 25 juillet 1903. Que doit faire quelqu'un qui comprend si mal la vie, qui est obligé de subir de constater que sa volonté propre est toujours plus faible qu'une autre grande volonté propre dans le courant de laquelle il lui arrive d'être entraîné comme un objet. La réponse de Lou pourrait avoir attendu 11 années lorsqu'elle écrit à Rilke le 12 septembre 14, après avoir reçu le texte des 5 chants. Elle cite ce texte des 5 chants en partie. La bouche commune ouvre de force notre propre bouche muette, que notre propre voix s'écrie en nous. Bienheureux suis-je qui vois les cœurs saisis. Mais elle ajoute de son propre chef, et néanmoins d'une certaine manière s'enroue dans les sanglots de la contradiction. Ces sanglots ne sont-ils pas ceux que Rilke verse lorsqu'il comprend si mal la vie? Qu'en est-il à présent maintenant du père et comment Rilke règle-t-il ce conflit? Relatons l'incident du daguerréotype. Un fait bien réel que nous allons résumer a provoqué l'écriture du poème « Portrait de jeunesse de mon père ». Peu de temps avant la guerre, en février 1914, Rilke relata à Benvenuta l'histoire d'un acte manqué, dirait la psychanalyse. Lorsque son père mourut en 1906, Rilke trouva dans ses affaires un daguerréotype représentant son père en uniforme. Je cite « Et je compris enfin quelle place indicible il avait prise dans mon cœur. » Mais une altération s'était produite, quelques minuscules taches de vert-de-gris. Et Rilke, voulant le nettoyer, provoqua au contraire une altération de l'image. Rilke écrira le 27 juin 1906, peu après la mort de son père, le poème « Portrait de jeunesse de mon père » qui débute ainsi. Du rêve dans les yeux, le front comme en contact avec un lointain, une bouche entourée d'une jeunesse intense et d'un charme sans phare. Et là où l'uniforme à la fine noblesse enserre dans sa gaine un corps qu'elle embellit. Le poème se termine par « Daguerréotype qui t'efface si vite entre mes mains, plus lente à passer. » Dans ce poème, l'idéalisation du père y est manifeste, mais également le prestige accordé à l'uniforme, allié à la noblesse supposée des origines à laquelle Rilke tenait tant, et qui forme le premier vers de l'autoportrait de 1906 qui succède donc au portrait de jeunesse de mon père. Ces deux poèmes sont composés exactement en même temps. De la longue lignée d'une ancienne noblesse, la constance est inscrite en l'arcade de l'œil. Voilà, ça c'est l'autoportrait, un extrait de vers de l'autoportrait de l'année 1906. Si la bouche du père est, je cite, « entourée d'une jeunesse débordante »,« um dem Mund enorm, viel Jugend », dit l'allemand, utilisant l'adjectif d'origine française « énorme », la bouche du fils, dans l'autoportrait, sera la bouche, une vraie bouche, grande et nette, faite, je cite, « non pour persuader, mais pour dire des mots de vérité »,« nicht überredend, aber ein gerechtes Aussagendes ». Rilke s'empare d'une caractéristique physique, la bouche du père dont il hérite, pour, comparativement à elle, s'affirmer en tant que diseur de vérité, poète, statut qui n'était pas souhaité par son père. Voix semble-t-il dire, de ta bouche pleine de charme est sorti un ordre qui m'était contraire et nos bouches ne se ressemblent que par la forme, car la mienne dit des mots de vérité. Vérité poétique, donc, contre autorité parentale. Abordons à présent la quatrième élégie de Duino. La recherche de l'approbation paternelle a sa vocation de poète, qui se transforme par celle du maître spirituel, remonte à sa rencontre avec Tolstoï en 1899, où la légitimité de la poésie se présente à lui lorsqu'il marche aux côtés de Tolstoï. Je cite. Il me fallut prendre une décision fondamentale. Je n'ai pas attendu ces années terribles pour m'astreindre à examiner si un tel travail était légitime. Mais jusqu'à aujourd'hui, la voix intérieure de la responsabilité m'a toujours répondu oui. Fin de citation. Un tel travail légitime est évidemment celui du poète. Mais entre une résolution de 1899 et 1919, nous nous apercevons que le conflit n'est pas soldé. C'est dans cette quatrième élégie de Duino, écrite les 22 et 23 novembre 1915, que nous trouvons un message adressé au père. Comme vous le savez, les élégies de Duino comptent parmi les chefs-d'œuvre de Rilke. Leur écriture s'échelonne sur 10 années, entre 1912 et 1922, et la guerre a joué un rôle majeur dans leur interruption. Notre interprétation de cette élégie est partielle dans ce contexte. Elle est envisagée principalement dans sa symétrie au poème qui concernait la mère de Rilke, « Ah, douleur, ma mère me détruit ». Les deux œuvres, donc, « Ah, douleur, ma mère me détruit » et cette quatrième élégie, relèvent de ce que nous avons appelé des règlements de compte. Il existe bien, dans cette quatrième élégie, un passage du « nous » au « je » qui révèle quelques éléments autobiographiques de l'enfance de Rilke lorsque le poète y interpelle son père. J'en cite 6 vers dans la traduction d'Angelos. « Toi qui pour moi connus toute l'amertume de la vie en goûtant la mienne, mon père, toi qui, tandis que je grandissais, goûtais et regoûtais les premières infusions troubles de ma mission et préoccupé par l'arrière-goût d'un avenir si étranger, mettais à l'épreuve mon regard encore voilé. » Fin de citation de cette quatrième élégie. N'ai-je pas raison, répétera-t-il dans le poème, comme une ultime interrogation au père disparu. La mission est celle du poète. Et comme on le sait, le père désapprouvait ce choix ou invitait l'enfant à pratiquer la poésie comme un à côté du métier d'officier ou de juriste à la rigueur. Mais dans ce moment de doute accentué par la guerre où l'omniprésence de la mort de masse menace la mort individuelle qui est celle du livre de la pauvreté et de la mort, Rilke doit se tourner vers l'enfance pour solder définitivement le conflit parental. C'est la solution, c'est l'issue. Cette quatrième élégie, compte tenu des éléments autobiographiques qu'elle contient, peut s'apparenter à une sorte d'auto-analyse. Rilke va chercher ou questionner une approbation paternelle jusque dans un au-delà imaginaire, interrogeant au préalable l'image évanescente du daguerréotype pour se persuader que sa mission n'est pas vaine. Je cite encore la quatrième. « Mon père, toi qui depuis que tu es mort souvent, dans l'espoir que tu portes en moi, a peur, et qui, pour mon peu de destinée, abandonne cette sérénité que possèdent les morts, des royaumes de sérénité, n'ai-je pas raison ?» S'il reconnaît au père une part de confiance, je cite « dans l'espoir que tu portes en moi », cette confiance est cependant, comme en 1904, nuancée, comme il le relate à Lou Andreas Salomé. Je cite. Mon père est, dont la patience à mon égard se teinte d'une tristesse croissante. Le poète, toujours en quête du chef-d'œuvre, se montre insatisfait, et l'on croit entendre avec ce peu de destinée les accents de Malte Lauritzbrig. Je cite, « J'ai 28 ans et il n'est pour ainsi dire rien arrivé. On devrait attendre et butiner toute une vie durant. Peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. ce jeune homme insignifiant devra écrire, écrire jour et nuit. Oui, il devra écrire, c'est ainsi que cela finira. » Fin de citation des cahiers de Malte Laurit Brigg. C'est non seulement vis-à-vis du père que Rilke se positionne en tant que poète, chargé d'une mission de poésie, mais aussi plus largement face à l'homme, à la fin de cette quatrième élégie, en ce temps où la guerre est une entrave à la création poétique. Cette quatrième élégie s'éclaire aussi dans sa relation qu'elle entretient avec Puppen, les deux textes précités, et aussi avec le texte de Heinrich von Kleist sur le théâtre de marionnettes. Car cette quatrième élégie devrait, à mon sens, être lue à la lumière du texte Puppen, ce que nous pouvons faire ici et que je vous invite à faire. Ce texte met en présence le cheval à bascule, jouet masculin, à qui Rilke attribuera cette arme, tandis que la poupée se trouvera vide. Je cite « Grande âme, valeureuse du cheval à bascule, houle qui balançait le cœur de l'enfant, toi qui faisais mouvoir l'atmosphère de la salle de jeu, jusqu'à ce qu'elle recouvrit tous les champs de bataille célèbres de la terre. » Fin de citation. Nous serons tentés ici, avec l'apparition exaltée de ce cheval à bascule, et face au châtiment de la poupée qui précède, de voir une reconquête du garçon face à son travestissement féminin, puisque la mère de Rilke jouait à la poupée avec lui, et l'identification de Rilke avec la poupée affleure ici. Je cite « La poupée, elle, ne répliquait pas, si bien que nous étions amenés à agir à sa place, à scinder en deux parties adverses, l'étendue peu à peu grandissante de notre personnalité, à tenir en quelque sorte à distance, grâce à elle, le monde qui se prolongeait en nous sans limitation, à distance de nous. La poupée appelle donc en quelque sorte l'épée ou le cheval à bascule. Pour se construire, il s'agissait bien pour René Rilke d'équilibrer sa bisexualité psychique. Il y eut en 1916 la mobilisation de Rilke, que j'ai évoquée tout à l'heure. Je cite « Si cela devait durer encore longtemps, j'aimerais apprendre quelque part à donner des soins et mettre en pratique cette part de médecin au-dessus de moi-même, dont je n'ai jamais cessé de poursuivre la trace, ou bien aller à Genève pour me mettre à la disposition de Romain Rolland, aux fins de l'intérêt universel. » Si cet extrait de la lettre à la princesse de Touré-Taxis, qui lui adresse le 9 juillet 1915, nous montre le chemin parcouru depuis les cinq champs, et aussi ce constant désir de servir, Rilke ne pourra mettre en pratique cette disposition, car, précisément, les obligations militaires vont le rattraper. Au milieu de l'horreur qui le submergeait, l'artiste gardait la tête haute et créait, soumettant la réalité à son symbolisme, rapporte Lou Andreas Salomé. Le poète n'est-il pas l'amant des souffrances et l'amant du bonheur? Cependant, si le poète crée, soumettant la réalité à son symbolisme, le symbolisme des cinq champs accroît sa perplexité. Mon esprit a suivi le grand courant général, a-t-il écrit à Anna von Münchhausen, poursuivant, puis j'ai fait un retour sur moi-même, sur mon cœur ancien, celui d'avant, que je ne puis renier. Mais après ce détour, isolé, j'ai grand-peine à retrouver une position juste et, si possible, en quelque manière féconde. Le cœur ancien, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, le centre de création de Rilke. Si donc, dans les premiers jours, il a suivi du conflit, il a suivi le grand courant général en écrivant, Rilke, bien que souffrant, ne souhaite pas se ménager et confie à sa correspondante qu'il songe aussi à se rendre tant soit peu utile. remettant à plus tard le soin de se reposer, de se fortifier, jusqu'à ce que nous ayons franchi la terrible montagne dans cet avenir qui échappe au regard comme à l'imagination. Un retournement de l'attitude, sinon patriotique du moins grégaire de Rilke, se manifeste également par le petit texte « Nous avons une apparition »« Wir haben eine Erscheinung » qui succède, comme le précédent, aux cinq chants. Vous voyez comme le retournement de Rilke par rapport à l'effroi que lui provoque ces cinq chants est rapide. Ce texte parut dans le fascicule numéro 1 du Zeit Echo, journal de guerre des artistes, en octobre 1914. Nous pouvons y lire cet effet de rétractation qui suit l'emballement que Rilke subit lors de la déclaration de guerre. Nous avons une apparition. Elle surgit dans nos chambres et sur les places désertes. Elle surgit à minuit et à l'approche du matin, ses contours se font plus nets avec le jour. Et nous voyons les maisons à travers sa diaphane silhouette. Un revenant existe par le nombre de ceux qui le perçoivent. Je ne veux pas que vous lui accrochiez les accessoires et les surnoms des guerres antérieures, car quoi que ce soit une guerre, vous ne la connaissez pas. La poésie a dégénéré en servitude. La fonction que nous pourrions qualifier de cathartique, sinon la vertu des cinq chants, relevant aussi d'une utopie enracinée dans l'enfance de Rilke, et si nous mettons à part leur qualité poétique, cette fonction serait d'avoir fait sortir ce monstre, le nœud bien serré dans l'enfance. Avoir dénoué poétiquement ce nœud permettait au poète de résoudre de nouvelles énigmes pour sortir du labyrinthe de sa destinée. Il devait identifier la part de lui-même qui avait produit cette œuvre, les cinq chants, s'en détacher et pour cela questionner l'enfance à la fois désirante et douloureuse, écrire une quatrième élégie marquée par un questionnement autobiographique. À cette fatalité monstrueusement commune, chacun, assassin de nous-mêmes et des autres, comme le dit Lou Andrea Salomé, chacun, assassin de nous-mêmes et des autres, mêlait sa propre culpabilité. Lou écrivait encore « Ce que chaque homme a hérité de sa mère détermine chez lui ses capacités de dévouement et de violence » et l'enferme inexorablement dans ses propres limites. » Fin de citation. Le poème « Ah, douleur, ma mère me détruit » d'importance littéraire inégale, certes, par rapport à la quatrième élégie de Duineau, pendant cette période de réduction créatrice, avait eu une fonction libératrice identique à celle de la quatrième élégie. À 20 ans, sa devise était « Patior ut possiar »,« Je souffre pour m'élever ». Il avait donc souffert et s'était élevé, il était donc prêt à se libérer de ce que sa devise énonçait. Il avait survécu à Malte, il devait survivre à la guerre et renouer le fil rompu de son œuvre. La poésie, telle que Rilke l'a envisagée au sens propre, du haut des falaises à Duineau, en une projection narcissique, à l'écoute de l'ange ou bien d'un surmoi survolté par la bora qui soufflait ce jour-là, ne peut que planer au-dessus des mêlées humaines. Mais la guerre qui entraîne le dérèglement de toutes les valeurs peut lui faire perdre sa qualité de produire des développements infinis au sens où Paul Valéry l'entend. Si nous nous sentons périr, tout est-il perdu? Songeons alors aux années productives d'avant-guerre, à celles d'après-guerre, à la suite somptueuse donnée à Musotte aux élégies de Duineau. Face aux cinq chants, ou à quelques œuvres mineures. Prenons appui sur un mot de Bourdelle. Dans la vie des sculptures, un plan superficiel est un incident, mais un plan profond, constructif, est une destinée. Je vous remercie.